Le baptême est donc un des chapitres de l'enseignement de Luther dans son petit catéchisme. La question, c'est en quoi le baptême peut-il être un enseignement ? Après tout, c'est un geste que l'on fait d'une façon parfois un petit peu sociale pour intégrer les enfants dans l'Église, mais c'est plus que cela, c'est un véritable enseignement par le sens qu'a ce geste, c'est-à-dire que c'est un signe qui dit quelque chose. C'est même le premier sacrement, dit-on, ce qui veut dire que c'est la chose la plus essentielle, la plus vitale, la plus fondamentale qui soit dite sur notre vie et qui précède tout ce que l'on pourra ensuite faire et dire concernant la vie chrétienne. Mais alors, que signifie donc ce geste du baptême ? Alors là, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a plein de baptêmes différents, chrétiens et non chrétiens, bibliques et non bibliques. Et entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a déjà énormément de significations possibles, ce qui fait qu'en général, quand je baptise un enfant, je demande toujours aux parents d'introduire la cérémonie en disant eux-mêmes ce qu'ils veulent signifier en baptisant le baptême de leur enfant. Mais donc, regardez à quel point c'est compliqué. Ce baptême, on le trouve d'abord dès l'Ancien Testament, avec cette belle histoire du baptême de Naaman, le lépreux, qui est plongé, c'est-à-dire baptisé dans le Jourdain et qui sera guéri de sa lèpre par le prophète Élisée. Ça, c'est le premier sens du baptême en général. C'est un rite de purification. On est plongé dans l'eau et on en ressort comme lavé, comme purifié, comme lavé de toute impureté et pardonné de tous ses péchés. Ce rite n'est pas proprement chrétien, d'ailleurs il existe encore aujourd'hui dans le judaïsme et il y a dans l'organisation des communautés juives en France des mikvés, c'est-à-dire des bains purificatoires auxquels doivent se livrer les juifs dans certaines circonstances et en particulier les femmes qui doivent avoir des bains de purification à certains moments, ça fait partie de la loi et de la tradition juive. Et ceux qui visitent Israël voient dans certains endroits, comme sur la célèbre butte de Massada, il y a des quantités de piscines que l'on voit qui sont encore tout à fait en état et qui prouvent que les juifs de Massada se plongeaient très régulièrement dans l'eau pour des sortes de rites justement de purification. Et c'est cette habitude des bains de purification qui nous amène enfin au Nouveau Testament avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui plongeait les gens dans le Jourdain et qui donc a baptisé Jésus nous amène au premier contresens que l'on fait habituellement sur le baptême. Dès que je baptise un enfant, les parents me disent « Je veux qu'on lise le récit du baptême de Jésus ». Mais ça n'a rien à voir avec le baptême des enfants. D'abord parce que ce n'était pas un baptême chrétien, puisque par définition c'était avant Jésus. Et donc ce n'est pas un baptême chrétien, c'était un rite juif. Ensuite, ce n'était pas en mettant un peu d'eau sur la tête, mais en plongeant entièrement dans l'eau. Donc c'est un baptême par immersion et pas par affusion, ce qui change tout. Ensuite, c'était un baptême d'adulte et pas d'enfant. Et enfin, probablement que ce rite que proposait Jean-Baptiste, les gens le refaisaient très régulièrement, ce n'était pas une fois dans sa vie. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient à lui, « Reconnaissez que vous êtes pécheurs. » Les gens le reconnaissaient et ensuite il donnait un signe du pardon en disant « Tu te plonges dans l'eau et tu ressors comme si tu ressortais purifié de ta faute. » Autrement dit, ce rite était exactement le même que celui un petit peu tombé en désuétude aujourd'hui, mais que l'on trouve dans l'Église catholique romaine, de ceux qui vont se confesser et qui reçoivent l'absolution. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose à voir avec le baptême des bébés que nous faisons aujourd'hui. Parce que quand on veut récupérer cela, rite de purification, quand on prend un petit bébé que l'on baptise, qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner, le petit ange ? Rien du tout. Un petit enfant de 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'a-t-il fait comme péché qui mériterait qu'on doive le purifier par le baptême ? Ça ne fait absolument aucun sens. Alors c'est là que la théologie médiévale est arrivée avec une chose absolument effroyable, en disant, eh bien écoutez, le petit bébé, il n'a peut-être pas de péché à se faire pardonner, mais il faut le purifier du péché originel. C'est-à-dire qu'on enseignait une sorte d'idée de culpabilité héréditaire et qu'on était coupable non seulement de ses péchés, mais aussi du péché d'Adam et Ève qui ont été faits il y a tant et tant de milliers d'années. Et donc on disait qu'on naissait déjà coupable et qu'il fallait que le baptême lave la faute du péché originel pour n'avoir ensuite à payer que ses propres péchés. Alors si c'est ça le message du baptême, ne faites surtout pas baptiser vos enfants. C'est une horreur effroyable. Je dirais aller venir dans une église pour s'entendre dire qu'on est coupable avant même d'avoir fauté, pour nous dire que nos enfants, nos petits anges qui viennent de naître sont déjà coupables, déjà condamnables, déjà promis à la mort à cause d'un péché héréditaire, c'est un message inadmissible et insupportable. Et donc, cette horreur, laissons-la dans le côté et dans les placards des choses que l'histoire nous a léguées et qui ne sont pas forcément bonnes. Alors, passons à autre chose. Si on scrute toujours sa Bible, on trouve un baptême chrétien, cette fois. C'est celui dans les Actes des Apôtres, geste par lequel les gens devenaient chrétiens, c'est-à-dire ceux qui voulaient se convertir à Jésus-Christ, se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, baptême par immersion, et donc ils étaient plongés dans l'eau et ils ressortaient. Et cette fois, le sens n'était pas simplement celui d'être lavé de ses péchés, mais c'était qu'ils étaient plongés dans l'eau comme s'ils étaient morts, et comme s'il renaissait à une vie nouvelle. Et donc l'idée c'est ça, c'est que je meurs à l'ancien homme pécheur et dévoyé que j'étais, et que devenant chrétien, je suis un nouvel homme, et une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Les premiers chrétiens d'ailleurs mettaient même ça en scène, et j'ai vu moi en Israël un très ancien baptistère chrétien, toujours par immersion bien sûr, qui était fait comme un tunnel, qui donc le nouveau baptisé descendait des marches, descendait sous la terre. Là, il y avait de l'eau dans le fond, il se plongeait dans l'eau, et ensuite il ressortait de l'autre côté du tunnel, comme s'il naissait à nouveau, à la lumière, à une vie nouvelle, après sortir des eaux du ventre de sa mère. Bon, l'idée de la nouvelle naissance, ça c'est un thème extrêmement chrétien, bien sûr. En particulier, on le connaît avec le texte de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus avec Nicodème, où Jésus lui dit, tu sais, il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, il faut aussi être né d'en haut et né de l'esprit, être né de nouveau. Parce que, effectivement, on a une vie qui est biologique, qui est ce qu'elle est, et ce que dit Jésus, c'est qu'à un moment donné, il faut que dans notre existence, il y a quelque chose de neuf qui arrive, qui vienne de la dimension spirituelle. Alors ce baptême d'adulte, on comprend bien ce qu'il signifie, on meurt à une vie ancienne, parfois peut-être un peu désordonnée ou déboussolée, une vie qui n'a pas beaucoup de sens, pour naître à une vie nouvelle, pleine de sens, pleine d'amour et pleine de tendresse. Et ça c'est une merveille, c'est un rite fort et puissant pour ceux qui l'expérimentent. Mais je reviens à nos églises qui baptisent les petits-enfants. Quand on baptise un bébé, est-ce qu'on dit vraiment qu'à partir de son baptême, il naît à une vie nouvelle? Je ne pense pas, pour tout vous dire. Je ne crois pas que dans le baptême d'un enfant, il y a un avant et un après, et que le bébé naît à une vie nouvelle au moment de son baptême. Je pense que ça n'a à peu près rien à voir. Et donc le baptême d'enfant que nous faisons n'a rien à voir avec ce baptême de conversion d'adulte du Nouveau Testament. C'est un autre geste. Il a le malheur de s'appeler aussi baptême, dirais-je. Mais ça n'est pas la même chose. Ça s'appelle aussi baptême parce que baptême est un mot grec, baptisein, un mot très commun qui veut dire plonger dans l'eau. Et donc aujourd'hui, la femme de ménage grecque qui fait la vaisselle, elle baptise les assiettes sales dans l'eau de vaisselle, si vous voulez. C'est pas, y a rien de liturgique. Baptiser, ça veut dire plonger. Et donc on met dans l'eau, voilà. Alors c'est le même terme, mais le baptême de bébé n'a rien à voir avec le baptême par immersion, qui était celui des premiers disciples qui se convertissaient. Le baptême de l'évangile, c'est un baptême de conversion, d'adulte. Un baptême de nouvelle naissance, un baptême par immersion. Le baptême que nous faisons, nous, est un baptême d'enfant qui signifie tout à fait autre chose. Alors bon, comme malheureusement souvent les parents, quand je baptise un enfant, me cherchent sur Internet, et donc ils m'amènent le texte de Nicodème. Alors je dis oui, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais comme je suis pas contrariant, j'essaye de récupérer l'affaire. Et je dis, écoutez, finalement, c'est pas entièrement faux, parce que ça veut dire que on marque une deuxième naissance, c'est-à-dire que finalement, nous sommes nés de la chair et du sang, mais il faut aussi que nous naissions de l'esprit. Ça, c'est ce que dit Jésus dans l'histoire de Nicodème. Donc, nous sommes nés de la chair et du sang, donc en tant qu'animal biologique, nous avons une naissance. Mais un être humain n'est pas juste un animal biologique. Il y a aussi en lui une dimension spirituelle, une intériorité, il y a aussi des valeurs, des convictions, une foi, un esprit, et qui doit aussi grandir, se fortifier et devenir autonome en quelque sorte. Si bien même que c'est cette dimension spirituelle qui est la seule qui perdure, vu que l'autre, elle sera atteinte par la mort physique. Et donc le baptême peut signifier justement non pas cette renaissance, mais cette deuxième naissance qui est la naissance de la dimension spirituelle. On ne sait pas très bien à partir de quel âge un bébé s'éveille à la vie spirituelle. Difficile à dire. Mais donc le baptême marque ça, et ça peut être une façon pour les parents de dire « Je crois que mon enfant n'est pas qu'une machine à manger des petits pots et à salir ses couches, mais mon enfant, c'est aussi un être spirituel. Et donc, non seulement je vais prendre soin de son corps, mais je vais aussi prendre soin de cette dimension intérieure et spirituelle qui est son âme. Et par conséquent, il faut aussi entretenir, accompagner, nourrir cette dimension spirituelle de l'enfant, parce qu'un enfant n'est pas simplement enfant de chair et de sang, il est aussi enfant de Dieu. » Et ça, c'est ce que dit aussi l'évangile de Jean quand il dit dans son prologue « La parole de Dieu est venue chez les siens et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non seulement, qui sont nés non de sang et de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et donc voilà ce que peut dire effectivement ce baptême, cette naissance marquée symboliquement par le baptême pour dire il y a dans mon petit enfant une autre dimension que celle du visible. Mais alors, qu'en est-il du baptême des enfants finalement? Revenons à cela. Certains disent, je vous l'ai dit, qu'ils n'en veulent pas parce qu'il n'y en a pas de trace dans la Bible. C'est vrai, le baptême d'enfant n'est pas un geste biblique, mais on fait des tas de gestes qui ne sont pas bibliques. Et la réforme n'a pas interdit tout ce qui était absent de la Bible. Elle a simplement dit « Veillez à ce que vous faites, ne soit pas en contradiction avec le message de la Bible. » Et donc le baptême d'enfant n'est pas biblique. La question, c'est de savoir s'il n'est pas contre le message de la Bible. Encore que là, je peux vous donner un petit argument. Le baptême d'enfant n'est-il vraiment pas biblique? Ça n'est pas évident, parce qu'on trouve dans les actes des apôtres, à certains moments, les apôtres voient quelqu'un qui se convertit, donc très bien, et le texte des apôtres dit « il le baptisa lui et toute sa maison ». C'est le cas de Lydie, la marchande de pourpre, elle se convertit, elle découvre le Seigneur, et les apôtres arrivent et baptisent Lydie et toute sa maison, c'est-à-dire ses enfants, les serviteurs, les servantes, les esclaves, les cousins, la belle-mère et tout le monde baptisé. Mais est-ce qu'ils ont tous proclamé leur foi? Peut-être pas. Et ça a été en quelque sorte l'argument de Calvin pour défendre le baptême des enfants. Et il disait, en fait, c'est juste pour dire qu'on fait partie de la famille des croyants. C'est-à-dire qu'on est incorporé au peuple de Dieu, on fait partie de la famille des croyants, on fait partie de la famille des chrétiens, quel que soit son niveau de confession de foi. Et de ce côté-là, même Calvin disait que le baptême d'enfant est en fait le prolongement de la circoncision chez les juifs, c'est-à-dire un signe d'appartenance. Alors certes, ça affaiblit le baptême, parce qu'il ne devient plus un engagement personnel chrétien, mais c'est juste de dire qu'on appartient à la famille, et que du coup, on peut dire, bah, après tout, on baptise un enfant dans la mesure où ses parents sont chrétiens. Ça, c'était la condition que mettait Calvin. On baptise les enfants pour dire qu'ils sont accueillis dans l'Église parce qu'ils sont de famille chrétienne, parce qu'ils sont de tradition chrétienne. On dit, ben, ils sont, font partie de la grande famille des chrétiens et de l'Église. Alors, il est vrai que ça ne dispense pas d'un geste personnel, d'adhésion personnelle à un moment donné, parce que ce n'est pas parce qu'on est baptisé enfant qu'on devient chrétien. Évidemment, être chrétien, c'est un choix personnel, un engagement personnel. Et il faudra donc qu'un jour, eh bien, cet enfant baptisé bébé puisse dire lui-même sa foi et professe sa foi. Ça, c'est ce que nous faisons lors de la réception des catéchumènes dans l'Église, ou de ce qu'on appelle la confirmation dans certains cas. On demande à l'enfant, on lui dit, par le baptême, on a dit que tu étais bienvenu dans l'Église, tu étais là comme chez toi, c'est ta maison parce que c'est celle de tes parents. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu confirmes ta place dans l'Église en tant que toi-même, tu le veux, et non pas en tant que tu es l'enfant de parents chrétiens. Et donc ça, c'est effectivement une autre chose. Et puis, cette dimension d'accueil de l'enfant, me diriez-vous, c'est pas très théologique, c'est juste sympathique. Mais c'est plus que ça, parce qu'on pourrait dire que le texte fondateur de ce baptême des enfants, c'est les petits-enfants accueillis par le Christ, quand les disciples envoient balader les gens qui veulent lui présenter des enfants en disant « Mais Jésus, il a autre chose à faire ». Et Jésus dit « Pas du tout, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Et donc, c'est effectivement essentiel de dire, eh bien, même dans l'Église et même dans le cœur de Dieu, il y a une place pour les petits-enfants. Et ça, ça dit beaucoup, parce que justement, ça montre que l'accueil dans l'Église, ça va de soi, mais même l'accueil par Dieu n'est pas conditionné à notre capacité à croire en lui. Et l'accueil par Dieu n'est pas conditionné à notre niveau d'intelligence et de connaissance de tous les pères de l'Église. Mais même les petits-enfants sont accueillis, non seulement dans l'Église, mais par Dieu lui-même. Et donc c'est un accueil extraordinaire, universel, de dire justement que tout le monde, finalement, est accueilli par Dieu lui-même et reçu par Dieu lui-même. Et c'est là que les chrétiens ont inventé pour le baptême des enfants un sens tout différent de ceux que j'ai dénoncés au départ, sur la question du pardon, du péché originel, ou de naître, de mourir pour naître à une vie nouvelle, un sens tout différent, et en se disant, il faut, pour ces enfants, petits-là, qu'on donne un geste qui dise la chose la plus essentielle de la foi, qui dise le plus fondamental, la base, le roc, la racine, le piédestal de toute la vie chrétienne, ce sur quoi tout repose. Tout ce que l'on fera ensuite concernant Dieu, tout ce qu'on fera dans l'Église, tout ce qu'on fera dans notre foi, sur quoi cela repose-t-il? C'est ça la base essentielle, la racine fondamentale qui conditionne tout le reste. Et la réponse, eh bien, elle vient de la lecture de l'Évangile, c'est la grâce première. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Dieu nous aime en premier, sans condition et totalement. La grâce première. Qui que nous soyons, Dieu nous accueille, certes, mais en plus nous aime, et nous aime d'une façon inconditionnelle, et nous reçoit d'une façon inconditionnelle, et ensuite nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés en premier, comme dit l'apôtre Jean, et nous pouvons lui rendre grâce parce qu'il nous a donné sa grâce, nous pouvons le louer parce qu'il nous a accueillis et parce qu'il nous a reçus. Et pour cela, eh bien, les chrétiens ont choisi un symbole biblique qui est celui de l'eau. Mais justement pas la même eau que celle du baptême par immersion, parce que l'eau est un double symbole dans la Bible. L'eau peut être symbole de mort ou de vie. C'est symbole de mort quand elle est en grande quantité, justement, parce que les Juifs ne savaient pas nager, et donc ils détestaient l'eau. L'eau, c'est l'eau de la mer, c'est l'eau de la tempête, c'est l'eau du déluge, c'est l'eau où on se noie, où on perd pied, et puis il y a des monstres marins dans le fond, c'est une horreur. Donc l'eau, c'est vraiment la mort et la destruction. Mais c'est aussi l'eau de la source, du voyageur qui meurt de soif dans le désert et qui trouve une source et qui boit et qui revit. C'est l'eau de la pluie qui tombe dans le désert et en 24 heures, tout le désert devient verdoyant et des fleurs poussent et le troupeau est sauvé. C'est l'eau de la rosée qui donne une fraîcheur extraordinaire dans des endroits si desséchés. Et donc l'eau en grande quantité, c'est la mort. Et le baptême par immersion, c'est de dire justement « je meurs » et en sortant de l'eau, je revis. Et le baptême d'enfant, c'est pas justement par immersion, surtout pas. C'est en mettant un peu d'eau sur la tête, comme vous mettez une goutte d'eau sur votre mini rosier, sur votre balcon, pour qu'il vive. Et donc c'est l'eau qui devient source de vie. Et sur cette source de vie, source universelle et sans condition de vie, parce que la source qui coule dans le désert, elle se donne aux voyageurs, quels qu'ils soient. L'eau de la source ne retient pas son eau si c'est un voleur qui vient boire. L'eau de la source coule pour les bons comme pour les méchants. Et c'est ce que dit Jésus aussi en Matthieu 5, 45, où il nous invite à être généreux avec tout le monde. « Comme votre Père, dit-il, fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. » Et donc la pluie tombe de la même manière dans le jardin du juste que dans le jardin du méchant. La source se donne à boire à tout le monde, comme la grâce de Dieu est universelle et se donne à tout le monde. Et c'est par là que le baptême d'enfant est un sacrement. Définition du sacrement, selon les bons dictionnaires de théologie chrétienne, sacrement, signe visible de la grâce invisible de Dieu. Signe visible de la grâce invisible de Dieu. Bon, en français courant, signe de l'amour de Dieu. Et baptiser un bébé, c'est justement simplement des parents qui ne veulent pas forcer un enfant à être chrétien, il le sera s'il veut, il ne le sera pas s'il ne veut pas, tout comme il faut, mais des parents qui disent « je crois que mon enfant est aimé par Dieu ». C'est tout. Je crois qu'il est aimé par Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que, pour ça, baptiser un bébé, c'est encore plus extraordinaire que de baptiser un grand. Je crois que cet enfant qui n'y comprend rien, qui ne parle pas, qui ne sait même pas qui est Dieu, je dis déjà Dieu l'aime et déjà Dieu l'accueille parce que Dieu nous aime et nous accueille dès notre premier souffle. Et dire que c'est le premier des sacrements est une merveille. La première chose de toute vie chrétienne, c'est de se savoir aimé par Dieu et d'être sous la grâce. Et ainsi, la vie chrétienne consiste à répondre à cette grâce de Dieu et non pas à essayer de la gagner. C'est pourquoi il est essentiel que ce baptême soit donné bébé, pour dire c'est la base de toute foi chrétienne. Et c'est aussi une merveille que toutes nos églises chrétiennes, protestantes ou catholiques, reconnaissent le même baptême. C'est-à-dire, on dit, il y a une chose fondamentale. Nous sommes tous au bénéfice de la même grâce. Après, on y répond à notre manière. Répondez-y en allant au culte ou en allant à la messe, en faisant le rosaire ou en allant à l'assemblée du désert. Ça, c'est très secondaire. C'est votre réponse humaine. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'une seule chose à la base. C'est une foi, la grâce de Dieu qui est première et qui est avant toute chose. Et donc, voyez-vous, ce baptême de bébé, certes, il n'est pas évangélique, mais il dit le message qui est au cœur même de l'Évangile, donc c'est un des gestes les plus évangéliques qui soit. Mais cela dit, je relativiserai un peu mon enthousiasme, parce qu'un geste ne crée pas une réalité. Et le baptême ne confère pas la grâce à un enfant, il dit une grâce déjà présente. Et donc un bébé qui n'est pas baptisé, il a aussi la grâce, aucun problème, juste que les parents n'ont pas pris la peine ou n'ont pas eu les moyens de le dire d'une façon formelle. Et donc le baptême, qu'il soit d'adulte ou d'enfant, c'est un geste purement humain. Et je vais vous dire, Dieu n'en a pas besoin. Parce que Dieu ne consulte pas les registres de l'Église. L'important, c'est le sens de tout cela. L'important, c'est de vivre de la grâce et de faire de la grâce la base de sa vie, le fondement de sa vie et l'origine de toute chose. Et c'est de se laisser arroser par la présence de Dieu comme l'enfant est aspergé par l'eau de la grâce. Donc ces baptêmes sont, faut relativiser, et ce n'est pas d'une importance essentielle. Jésus d'ailleurs lui-même, on nous dit dans l'Évangile que Jésus ne baptisait pas. Pourquoi ? C'est assez étonnant, c'est en Jean 4, 2. Et Paul lui-même, dans l'Épître aux Corinthiens, se vante de n'avoir baptisé pratiquement personne. Il dit « Moi, je n'ai baptisé personne. » Et puis, alors, dans l'Évangile, il y a un seul verset d'institution du baptême. C'est le dernier verset de l'Évangile de Matthieu. « Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est bien demandé par Dieu. Patatras, tous les spécialistes nous disent que ce verset est apocryphe. Il a été rajouté au IIIe siècle. Et donc Jésus n'a jamais pu dire ça. Parce qu'il y est mention de la Trinité, que la Trinité est une invention du IIIe siècle. Donc le baptême n'est pas indispensable. L'armée du salut ne baptise pas ses enfants. Les Quakers ne baptisent pas. Et il y a un bon nombre d'églises chrétiennes qui ne baptisent pas, et probablement même que les apôtres n'ont jamais été baptisés. Et du coup, même dans notre Église protestante unie, savez-vous qu'il n'est même pas demandé d'être baptisé pour en être membre ? On peut être membre de l'Église protestante unie sans avoir été baptisé. C'est intéressant. Et on peut communier sans avoir été baptisé. Ce qui d'ailleurs est une décision qui a beaucoup choqué les catholiques et certains luthériens, en disant, à ce moment-là, tout fout le camp, si vous mettez les sacrements dans le désordre. Mais je pense qu'il faut relativiser les choses. Cela dit, néanmoins, je pense que ça reste un beau geste. Le baptême pour soi ou pour ses enfants, dire d'une façon formelle, un peu cérémonielle, qu'on est marqué de l'amour et de la grâce de Dieu, ça n'est pas rien. Et même si on le sait bien, le dire, c'est une merveille. C'est comme dans un couple, quand l'autre dit « Dis-moi que tu m'aimes », mais tu sais bien que je t'aime. Non, c'est pas « tu sais, je veux que tu me le dises ». Et le baptême, c'est ça, ça dit la chose. Et ce qui va s'en dire, va encore mieux en le disant. Et puis, cela dit, je ne voudrais pas non plus laisser croire qu'après tout, le sens de ce baptême serait l'ensemble de la vie chrétienne. C'est un des chapitres, il y en a d'autres. Le baptême, je vous l'ai dit, c'est le premier des sacrements. Premier suppose qu'il y en ait d'autres. Et donc, quand on dit qu'on est plongé dans la grâce, qu'on reçoit la grâce de Dieu, on ne dit pas tout. Vous recevez la grâce, d'accord, mais pourquoi faire ? Et c'est là qu'intervient la promesse de Jésus, qu'on trouve plusieurs fois dans l'Évangile, où il dit, là, vous avez été baptisé d'eau, c'est très bien. Mais ensuite, vous devez encore être baptisé d'Esprit Saint et de feu. Cela veut dire que il faut arriver à être plongé, non pas simplement dans l'eau, mais être plongé dans une puissance de dynamisme. L'Esprit Saint et le feu. Le feu de Dieu qui nous éclaire, qui nous met en marche, le feu qu'on met dans la locomotive, qui fait avancer la locomotive à vapeur. Et l'Esprit Saint, c'est le souffle qui nous pousse, qui nous fait vivre, qui nous fait avancer, qui nous fait nous battre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le baptême. Le baptême, c'est le point de départ. Nous recevons une grâce, une bonté, un amour, une tendresse. Mais ensuite, il faut encore transformer ça vers autre chose. Et c'est là où il y a Paul, juste après son expérience à Damas, dit ce verset, dit cette phrase extraordinaire, qui avait été choisie. Vous savez, chaque catéchumène à sa confirmation choisit un verset. Et j'avais un catéchumène qui avait choisi ce verset extraordinaire, qui est cette phrase de Paul après qu'il ait vu le Christ à Damas, et c'est « Seigneur, que ferai-je ? Seigneur, que ferai-je ? Vous êtes baptisé, vous avez la grâce, qu'allez-vous en faire ?» Et ce que l'on va en faire, c'est de nous dire que si nous avons été marqués du signe de l'eau de cette grâce, il y a aussi le Christ lui-même qui peut nous plonger dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est-à-dire plonger dans de la force et dans du dynamisme. Dieu est purification, paix et grâce, mais ce n'est pas pour ne rien faire. Dieu n'est pas qu'une boule de ouate. Une fois lavé, si vous voulez, une fois pardonné, une fois gracié, une fois aimé, il faut encore que nous puissions avancer et nous mettre en marche. Mais en tout cas, on ne peut rien faire tant qu'on ne se sait pas aimer. Et en tout cas, nous ne pouvons aimer que si nous nous savons aimer. Et donc, ce baptême, non seulement est sans doute un des plus beaux gestes de la vie chrétienne, tout simplement, et c'est peut-être aussi la base même de toute notre foi chrétienne, qu'on soit baptisé ou pas, de se souvenir qu'avant toute chose, Dieu nous a aimés et qu'il continue à nous accompagner de son souffle vital. Amen.